Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Voilà, avant d'aborder notre sujet de tout à l'heure sur la délinquance juvénile, cause et solution, d'abord, nous vous parlons de ce sujet avec nos collègues de Parole aux auditeurs, donc l'émission qui vient juste après au Capi Service à partir de 11h03, heure de Kinshasa. Le 1er mai de chaque année, le monde célèbre la journée du travail. En marge de cette journée organisée hier, jeudi, le président de la Confédération syndicale du Congo a plaidé pour les sociales des travailleurs congolais, Guy Kolila a en outre estimé que la révision du taux du SMIG serait l'idéal pour matérialiser le thème retenu cette année en RDC, à savoir construire l'avenir avec un travail décent. Quel regard portez-vous sur ces plaidoyers? Quel mécanisme efficace pour y arriver? Donc c'est ça le sujet pour l'émission Parole aux auditeurs de tout à l'heure. Je vous rappelle le numéro dont vous pouvez déjà appeler pour en tout cas ces sujets au 081 890 63 15. Voilà. À présent, on va parler de la délinquance juvénile, cause solution avec notre invité, le professeur Norbert Lopichi, criminologue et expert de l'enfance marginalisée en RDC. De nombreux jeunes se distinguent par des actes de vandalisme, notamment sur les lieux publics ou autres lieux de manifestation des deuils, pour les cas de deuil par exemple. Cela arrive souvent lorsqu'il y a des rumeurs de sorcellerie autour d'un décès. On voit des jeunes qui casse presque tout, qui vraiment perturbe le deuil. Pourquoi ces genres de comportements? Pourquoi ces phénomènes? On en parle avec notre invité, le professeur Norbert Lopichi. Je rappelle encore une fois les numéros des contacts. Si vous avez assisté à de telles scènes dans le coin où vous habitez, en tout cas, appelez pour passer votre témoignage au 081 890 63 94. Professeur Norbert Lopichi, la délinquance juvénile, qu'est-ce qui explique généralement ces genres de phénomènes?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais également remercier tous les nombreux auditeurs des Radio Capi qui ont réclamé que nous puissions une fois encore échanger sur le thème relatif à la délinquance juvénile. Excusez-moi de modifier un peu votre manière de procéder. Je pense qu'il faut dans un premier temps d'essayer de circonscrire le contenu sémantique de la notion de délinquance juvénile.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par délinquance juvénile? D'emblée, vous allez voir que ce n'est pas facile de définir la délinquance juvénile. Avec plusieurs auteurs tels que Laude ou Algrave, nous considérons que la délinquance n'est pas une catégorie de comportements ou de situations homogènes, non. C'est plutôt une multitude d'actes différents, des contextes sociaux, des causes, des motivations et des situations que chaque système juridique définit comme relevant de la délinquance. Donc, pour dire que la délinquance en soi, c'est une construction sociale, c'est une construction du droit, c'est le droit qui définit que tel acte, telle situation relève de la délinquance juvénile.
Voilà, donc c'est ça déjà l'idée, hein, pour circonscrire le sujet sur la délinquance juvénile. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, professeur, et par rapport aux actes que pose généralement le jeune, à quel moment on peut parler, cet acte peut être considéré comme un acte de délinquance juvénile?
Ah oui, mais je crois que la question a toute sa valeur. Si nous essayons un peu de quitter le champ institutionnel, c'est-à-dire le champ juridique, vous allez voir qu'il faut toujours faire la part des choses. Oui. Ici, je voudrais récupérer toujours la réflexion du même auteur que j'ai cité. Pour présenter la délinquance juvénile, Laude ou Algrave, il éclate cette notion en trois variantes. Il y a d'abord ce qu'on peut considérer comme la délinquance symptôme ou la délinquance anomique. C'est c'est-à-dire une délinquance due à une crise aiguë que connaît la personne, surtout pendant l'enfance. Une crise, par exemple, d'abandon, de négligence, de maltraitance en famille. Il y a toujours des séquelles qui peuvent se manifester plus tard. Et la deuxième forme de délinquance, c'est la délinquance passagère. Celle-ci, elle est relative à l'âge. Généralement, lorsqu'on a atteint l'adolescence, et les jeunes gens ont tendance à braver l'interdit, à affirmer leur place dans la société. Et là, ils ont tendance à poser des petits actes, justement, qui dérangent dans la société. Ça, c'est la délinquance passagère. Mais il y a aussi une forme de délinquance qui m'intéresse particulièrement. C'est ce que l'on qualifie de délinquance systématisée. Une délinquance due au fonctionnement de la société. Et donc, une forme de délinquance qui est due aux conditions d'existence dans lesquelles on se trouve. Voilà.
Voilà, professeur. Alors, parlons de cette forme qui, je pense bien, nous intéresse, cette délinquance systématisée qui est due, à, comme vous l'avez dit, aux conditions sociales de la vie. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Parce que je reviens encore une fois sur ces cas de figure avec ce qui se passe lorsqu'il y a un deuil et qu'il y a des rumeurs qui circulent autour d'affaires de sorcellerie. Et qu'est-ce qui peut expliquer que tout brusquement il y a des jeunes, un mouvement de jeunes pour essayer un peu de manifester leur mécontentement et qui essayent perturber tout ce qui se passe dans un lieu de deuil, par exemple. Pourquoi est-ce que tu expliques ce mouvement tout d'un coup de jeunes comme ça, qui du coup manifestent ces mécontentements de manière peut-être parfois très brutale?
Pour bien répondre à cette question, il faut d'abord découvrir les caractéristiques des jeunes, hein, si vous voulez.
Oui.
Les caractéristiques des jeunes. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas aller trop vite en besogne pour mobiliser des concepts à caractère pénal.
Oui.
Chaque fois qu'un acte est posé, on a tendance à le ramener dans le champ pénal pour dire « voilà, ils ont fait ça ». Mais il faut dire que la jeunesse, c'est une période assez particulière aussi. Vous allez voir que les jeunes sont caractérisés entre autres par la vitalité, par l'esprit d'aventure, par le dynamisme et par la vigueur, par l'audace. Et vous voyez, vous allez voir que toutes ces qualités-là, si elles ne sont pas bien canalisées, et ici je fais allusion à l'encadrement, vous allez voir que toutes ces qualités-là, si elles ne sont pas bien canalisées, elles vont justement conduire les gens à ces choses.
Le professeur n'est plus en ligne, il me semble. On va le retrouver tout à l'heure. Nous avons d'ailleurs déjà des auditeurs en ligne à qui on va accorder tout à l'heure la parole. Nous vous rappelons que nous parlons de la délinquance juvénile, cause et solution, avec notre invité, le professeur Norbert Lupici, criminologue et expert de l'enfance marginalisée. Donc on va le retrouver certainement tout à l'heure. Vous êtes intéressé par ce sujet, appelez au 081-890-63-94.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Ogi Bendelo nous appelle de Kikwiti, dans le Bandundu et Kasamba, et Tabouni en province orientale. Ogi Bendelo, bonjour.
Bonjour, Marcel Ngombombala, je salue notre invité, malgré qu'il n'est plus en ligne, M. Norbert, et tous ceux qui sont présentement branchés. Merci Marcel. J'ai une ou deux questions à poser à notre invité, et je souhaite qu'on puisse les retrouver encore. La première est de savoir, il a précisé disant que la délinquance juvénile est liée aussi par rapport à l'âge. Il a parlé de l'âge adolescent. C'est pourquoi j'ai voulu lui poser cette question. Si cela est ainsi, pourquoi voit-on par exemple des gens qui ont passé l'âge adolescent, mais on voit qu'il est assez grand, mais il a un sang adolescent, c'est-à-dire sa manière d'agir, au lieu du dé, il y a même d'autres écuries qu'on appelle Banamabé, ceux qui sont comme semeurs de troubles. Il y a une fête, s'ils arrivent, les gens sont mal à l'aise. S'il y a une cérémonie du mariage, ils marquent leur présence, même s'ils ne sont pas invités, les gens ne sont pas contents à cause de leur agissement. Par rapport à ces gens-là, qu'est-ce que notre invité va nous dire, parce qu'il a précisé aussi qu'on doit tenir compte de l'âge. Et la deuxième question pour terminer, M. Marcel, si l'invité peut me préciser pour que les jeunes, pour que ce système puisse soit diminué, soit cessé catégoriquement, il faut une sensibilisation ou bien que doit-il faire pratiquement? C'était là mes deux questions, Marcel. Bon début de week-end à tous ceux qui nous écoutent.
Merci Yogi Bendelo depuis Kikwit, dans le Bandundu. Kassamba, vous êtes à Bounia en province orientale. Bonjour Kassamba.
Bonjour M. Marcel Ngombo, bonjour l'invité. Bonjour les auditeurs de la radio Okapi. Ma question surtout est que l'invité puisse définir la délinquance juvénile en termes simples, compréhensibles à tout le monde. Ça c'est de un, de deux. Chez nous, en République démocratique du Congo, c'est le manque d'encadrement des enfants. On a fait de certains enfants, enfants adultes qui sont en train de nourrir les familles. Alors chacun des enfants, c'est debout de sa face. C'est ainsi que la délinquance juvénile sévit sérieusement dans ce pays et puis ça continue même jusqu'à atteindre la délinquance sénile. Merci.
Merci Kassamba depuis Bounia, professeur oriental. J'espère que le professeur est de nouveau en ligne. Professeur Norbert Lobichi, vous êtes à nouveau en ligne en tout cas. Ça nous fait énormément plaisir parce qu'il avait déjà des questions des auditeurs. Il y a Ogi Abendelo qui a appelé de Kikwit dans le Bandundu. Également Kassamba qui nous a appelé de Bounia en province orientale. Alors Ogi Abendelo, sa préoccupation, il voulait savoir, professeur, lorsque vous avez parlé de la délinquance juvénile, vous avez fait allusion à certaines causes, c'est-à-dire des causes liées à l'âge. Mais Guy Bendel se pose la question de savoir mais pourquoi là, des personnes qui ont déjà passé l'âge d'adolescence, mais qui, de fois, se comportent comme des jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont également ils posent également des actes hein, de vandalisme. Comment pouvez-vous expliquer cela? Et puis, il a posé la question de savoir comment faire face à ce phénomène de délinquance juvénile pour y mettre fin. Professeur Norbert Lupic.
Merci beaucoup à vous, monsieur le journaliste, et merci à l'intervenant. Nous devons d'abord savoir que lorsqu'on parle de la délinquance juvénile, il s'agit des actes ou des situations qu'on impute aux jeunes gens. Vous voyez?
Oui.
Mais s'il s'agit d'un adulte, il y a une autre terminologie qu'il sait d'employer. Mais déjà, criminologiquement parlant, vous allez voir que la délinquance ou la criminalité n'a pas de limites. Hein. Elle se retrouve dans toutes les couches sociales. Mais maintenant, la question qu'il pose pourrait peut-être être mieux abordée par un psychologue, mais à ma connaissance, il est possible qu'un adulte qui n'a pas bien géré son adolescence, ça peut se manifester plus tard dans l'âge adulte. Donc, une sorte de récupération, quoi. Oh, donc, ça arrive. Psychologiquement, ça s'explique. Ça peut arriver et en retard. Donc, quelqu'un qui ne s'est pas ouvert, qui n'a pas affirmé, si vous voulez, son autonomie à l'âge de la jeunesse, il peut toujours ruminer une certaine crise et à un moment donné de l'âge adulte, il éclate, quoi, hein, et il vit en quelque sorte en différé ce qu'il aurait pu faire pendant la jeunesse. Ça s'explique scientifiquement, oui.
Mais il voulait également savoir, d'ailleurs, vous avez déjà abordé un peu dans ce sens sur ce qui est du manque d'encadrement, parce que vous voulez savoir comment faire face à la délinquance juvénile. Quelles sont les solutions à proposer?
Bon, si nous devons rester dans la logique des trois formes de délinquance juvénile que j'ai énumérées,
oui.
La première forme, je l'ai qualifiée de délinquance symptôme, qui est due à la crise aiguë hein, que la personne connaît pendant l'enfance, la crise relative à l'encadrement. Mais la solution est très simple. Il faut conscientiser les parents, hein, leur rappeler leurs lourdes responsabilités, hein, leur rappeler que la famille constitue la première cellule de base qui forme, qui encadre les sujets, hein, futurs citoyens utiles pour la société. S'il y a une crise d'encadrement au niveau de la famille, il y aura des séquelles. Je pense que l'humanité entière est témoin, hein, lorsqu'on parle de la dictature. il y a un grand dictateur de renom international qui a secoué le monde entier, mais quand on analyse son passé, on trouve effectivement qu'il avait connu une enfance agitée. Ça, c'est par rapport à la première forme. Mais si nous attaquons ce que nous considérons comme la délinquance liée à l'âge d'adolescence, il faut absolument un encadrement. Hein? Il faut créer des structures d'encadrement, d'éducation, d'instruction, pour justement arriver à canaliser les énergies des enfants. Il ne faut pas être surpris. Quand les actes sont posés, vous vous ressaisissez. Je crois que ça, c'est une responsabilité partagée à la fois par les parents, par l'État et par la société. Il faut donc considérer que les jeunes gens que nous encadrons, à un moment donné, ils peuvent manifester cette forme de délinquance liée à l'adolescence. Et on doit déjà prendre les précautions, baliser leur chemin. C'est ça. Considérer la délinquance systématisée, là, vous allez voir que la liste des facteurs est assez longue. Je préfère d'abord m'arrêter ici, avant d'aborder, si vous voulez, cette longue liste causale.
Avant de passer la parole à Modeste Mwamba, qui nous appelait de Kananga, dans le Kassa occidental, il y avait Kassamba qui nous appelait de Bunia et qui, lui, dit, est-ce que le professeur peut nous expliquer en termes simples ce qu'on entend par délinquance juvénile?
Bon, je l'ai dit en début de l'émission, j'ai dit que le terme délinquance juvénile, c'est une construction du droit. C'est-à-dire, c'est chaque système juridique qui définit certains faits, certaines situations comme relevant de la délinquance juvénile. Il s'agit en quelque sorte des délits imputés aux jeunes gens. Vous allez voir que ce terme délinquance juvénile n'est pas bon à employer, et sur le plan éthique, il n'est pas bon, parce qu'il présuppose déjà une certaine punition. C'est ainsi que lorsque vous prenez la nouvelle loi sur la protection de l'enfant au Congo, nulle part on ne fait allusion à la délinquance juvénile. On parle plutôt des enfants en conflit avec la loi. Donc, chaque terme doit être pesé. Comme je le soutiens, c'est chaque système juridique qui définit un certain type de comportement. Je vais, pour aider notre ami, donner l'exemple du pouvoir colonial.
Oui.
Vous savez que pendant la période coloniale, il y a des faits qui ont été définis comme relevant de la délinquance juvénile. Quels ont été ces faits-là? C'est par exemple la mendicité, le vagabondage, vous voyez, les jeux d'argent. Mais avec le temps, il y a des choses qu'on a dépénalisées, qu'on a décriminalisées. Mais maintenant, si vous voulez vraiment parler de la délinquance juvénile, moi je crois que c'est une construction sociale. Il faut vous référer au système juridique quelconque qui définit ces faits-là qu'on impute aux jeunes. Voilà comment je réponds à cette question.
Modeste Mwamba, vous appelez du Kananga dans le Kassai occidental. Bonjour Modeste.
Marcel Ngombombala, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et particulièrement ceux de Kananga.
On vous écoute Modeste, quelle est votre question?
D'accord, merci. J'ai trois questions avant d'en arriver là. Je voudrais un peu dire à l'invité qu'il y a un petit frère, c'est quelqu'un qui est déjà en deuxième primaire. Cet enfant pose des actes, je dirais bien les actes vraiment transversaux. Vous trouverez qu'il il agresse les uns dans le milieu scolaire. On n'a que des problèmes à la maison. Chaque fois on intervient, le parent cherche il cherche à trancher le problème, ça ne tient pas. Alors je voudrais un peu savoir par rapport à ça, comment faire de sorte que cet enfant ne puisse pas continuer avec cet aller au point qu'il devienne délinquant à la longue. Parce que des fois il vous dit, moi je serai un militaire par rapport aux actes qu'il pose. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre à cette affaire-là? Parce que nous savons que la délinquance, c'est un problème qui est lié à la désadaptation sociale. Je voudrais un peu que l'invité puisse nous dire, par rapport à la fréquence, combien de fois on peut enregistrer des actes qui sont vraiment brutaux afin de pouvoir déclarer directement que cet enfant est délinquant. Maintenant, si la délinquance est une maladie, quel est le mode de traitement le mieux adapté à cette maladie-là? Parce que nous savons que il y a aussi, ça c'est la troisième question, il y a ceux qui croient que La délinquance, c'est d'abord une affaire héréditaire. Est-ce que l'invité peut nous avancer quelques arguments par rapport à ça? Parce que je connais bien un auteur, son nom c'est Lombroso, il dit que certains individus sont constitutionnellement prédisposés à la délinquance. Est-ce que l'invité a un mot à dire sur base de ça? Je vous remercie beaucoup et bonne suite de programme. Très surtout bon week-end.
Merci Modeste. Merci Modeste. Patient Paul, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Patient Paul.
Bonjour Marcel Ngombo, ainsi qu'à l'invité.
On vous écoute, Patient Paul.
Voilà, j'ai deux petites questions de curiosité donc à poser à l'invité. J'aimerais savoir quelle différence peut-on établir entre la délinquance et la puberté. Et puis donc la deuxième, quels sont les éléments qui sont à la base de cette délinquance juvénile dans notre société? Voilà, c'est Patient Paul depuis Kinshasa.
Merci Patient Paul, vous l'avez dit, vous appelez de Kinshasa. Professeur Norbert Lopichi, vous avez suivi Modeste Mwamba et Patient Paul. Alors pour Modeste, il a évoqué l'exemple de son petit frère qui est en deuxième année primaire, mais qui, est, d'après lui, il semble grandir pas comme il le faut. Il pose souvent des actes brutaux, il dit même qu'il aimerait... devenir militaire, bon, je crois pas, c'est quoi les rapports entre devenir militaire et poser des actes brutaux. Alors, l'inquiétude de Modeste Mwamba, il dit un tel petit frère qui grandit dans cet état d'esprit, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter qu'avec les temps qui pose vraiment des actes liés à la délinquance juvénile, et il a également cherché à savoir si la délinquance peut être héréditaire. Il a cité le cas d'un auteur Lombroso qui en parle dans ses sens. Professeur Norbert Lopichi, comment vous réagissez?
Merci beaucoup. Je vais répondre avec sourire aux deux intervenants, en commençant par celui du Kasseï. J'inverse un peu sa manière de poser les questions. Je commence par la dernière question. Est-ce que la délinquance juvénile peut être héréditaire? Et là, il fait allusion à Lombroso. Je ne pense pas que Lombroso ait dit ça. Hein. Moi-même, je suis criminologue, on m'a présenté. Lombroso, qui est le père officiel de la crimino, il a justement développé la notion du criminel né. Hein. Il dit que les gens naissent avec des prédispositions morbides, hein, au point que ces gens-là, absolument, ce sont des criminels nés. Mais le terme héréditaire, non, je ne pense pas qu'il ait utilisé ce terme héréditaire. Mais est-ce que la théorie de Lombroso est encore vérifiable aujourd'hui? Je ne pense pas. Hein. Le criminel de Lombroso, hein, le criminel né, a été vite, sur le plan théorique, battu en brèche. Aujourd'hui, on parle du criminel normal. Vous savez, Lombroso, il a osé une étude tout à fait louable à son époque, mais il est allé trop loin, parce qu'il est allé même aux traits caractéristiques. Hein. Il a commencé à déterminer les traits pouvant déterminer un criminel, les mâchoires allongées, les yeux rétrécis, patati patata. Mais finalement, cette théorie a présenté beaucoup de limites. Donc, je rappelle à notre ami qu'actuellement, la délinquance juvénile ne peut pas être conçue comme quelque chose qui peut être héréditaire. Mais vous devez simplement placer quelque part dans les trois types de délinquance que j'ai analysé. Soit il peut s'agir des actes qui relèvent de la délinquance symptôme, et là il y a une raison. Soit ça peut être une délinquance passagère, soit c'est une délinquance systématisée relative au fonctionnement de la société. Voilà comment je réponds à la dernière question. Maintenant, concernant son jeune frère de deuxième année primaire, ici je vais peut-être faire allusion à une loi, hein, commentée par les psychologues, la loi de la récapitulation. La loi de la récapitulation enseignée en psychologie montre que, en réalité, toute personne humaine, un enfant, quand il vient au monde, quand il est encore déjà bébé, par sa manière de crier, par sa manière de jeter les bras, de pousser des cris, il montre que s'il n'est pas encadré, c'est déjà un délinquant potentiel. Autrement dit, chaque personne, hein, placée dans certaines conditions, il présente déjà ses prédispositions. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il parle des remèdes, que faire? Je pense que si on examinait la vie de ces jeunes hommes, c'est peut-être un encadrement insuffisant au niveau de la famille. Lorsqu'on parle d'un bébé qui présente déjà les signes inquiétants, il faut déjà penser que c'est un sujet qu'il faut encadrer dès qu'il naît. Hein, au niveau de la famille, au niveau de l'école et au niveau de la société. Moi, je pense, je n'ai pas été en contact avec cet enfant, je considère que peut-être il y aurait eu crise au niveau de l'encadrement de cet enfant quand il était encore tout jeune. Mais maintenant, comme lui-même, déjà, un enfant de 2 ans, il réfléchit, il dit, moi, je ferai ceci, je ferai cela. Il affirme déjà son moi. Moi, je pense qu'il y a un travail de lavage des cerveaux qu'il faut faire. Parce qu'à un moment donné, en criminologie, nous savons aussi que la criminalité ou peut être apprise, hein, soit en contact avec un voisin, soit en contact avec un ami. Donc c'est déjà un enfant qui a quelque chose en tête et qui le pousse à poser des actes problématiques. Il faut procéder à un désempratissage intellectuel. Il faut laver son cerveau. Et là, un danger qui guette les parents, c'est de chercher à les suivre dans ce qu'il dit là. Si les parents acceptent ce qu'il dit, parce qu'il se donne lui-même une étiquette, mais si vous acceptez l'étiquette, mais sachez que à force de répéter cette étiquette, l'enfant va finalement accepter cela et il va le manifester toute sa vie. Voilà comment je tente de répondre à cette question.
Bah pour cela, j'avais également cette question de patient Paul sur la différence entre la délinquance juvénile et la puberté. Mais avant de répondre à cette question, permettez-nous de prendre d'abord des auditeurs en ligne. Il y a Saoul, j'espère c'est bien comme ça son nom qu'il faut le prononcer. Saoul qui nous appelle de Kinshasa et il y a Jackson qui est à Goma dans le Nord qui vaut Saoul. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous écoute, quelle est votre question?
Non, moi, je n'ai pas une question. Je voulais intervenir.
Allez-y, c'est quoi votre contribution?
Voilà.
Ne soyez pas là.
Ma façon de voir les choses. Retournons d'abord en famille. Parce que la famille est la cellule de base de la société. Si souvent, moi, je suis un homme de 25 ans. La génération de nos parents, souvent, cette génération-là, même quand on se croise, peut-être dans les transports, peut-être dans les universités, cette génération se méfie de notre génération. Souvent, elle dit, la génération actuelle, elle n'est pas bien éduquée. Quand j'ai eu à étudier ça, j'ai trouvé que la faute incombe à nos parents. Nos parents ont été bien éduqués par leurs parents, bien encadrés. À leur tour, comme ils se voient qu'ils ont beaucoup étudié, et ils ont beaucoup étudié, évolué, alors en Europe, tout ça, ils commencent à négliger certains paramètres. Il y a un point que je peux soulever, le droit de l'enfant. À ma façon de voir les choses, les droits de l'enfant, c'est bien, mais je crois que c'est bien que le parent sache le droit de l'enfant. Je ne trouve pas nécessaire qu'on informe à l'enfant ses droits. Moi, je trouve nécessairement que c'est bien que le parent sache le droit pour les appliquer sur les enfants. Quant aux enfants, il est nécessaire de leur apprendre le devoir. J'ai étudié avec quelques amis, en tout cas, c'était regrettable. Un parent qui dit à son fils, quand vous allez à l'école, personne ne doit se jouer de toi, sinon tu reviens me dire, nous allons voir quoi faire. Alors tout ça, moi je trouvais qu'il faudra que nos parents prennent leur responsabilité, leur autorité sur nous. Trop supplier les enfants, tout ça, non, l'éducation, la discipline, c'est comme ça que les enfants peuvent bien grandir.
Merci.
En dehors de ça, associer la prière. Voilà ma façon de voir les choses.
Merci Saoul, vous avez appelé de Kinshasa à Goma, on va accueillir Jackson. Bonjour Jackson.
Bonjour la Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute, Jackson.
En fait, de la manière dont je conçois la délinquance juvénile en RDC, en tout cas, je me rends compte que les responsabilités sont partagées aux parents et aussi au niveau de l'État. Parce que savons-nous bien que du moment où on n'a pas reçu une bonne éducation, facilement on peut tomber dans la délinquance. Et que donc les parents devaient s'enfimer, n'est-ce pas, pour prévenir la délinquance. Mais la grande responsabilité aussi réside à l'État. Il fallait alors que l'État, n'est-ce pas, mette en place des moyens pour prévenir cette délinquance. C'est comme par exemple, parce que souvent on nous dit que l'île n'est censé ignorer la loi. Cette loi-là, si on pouvait mettre en place une loi par rapport à ça, il fallait aussi que cette loi soit que cette loi soit à la portée de tout le monde. Parce qu'on ne va pas nous dire qu'on est censé ignorer la loi alors que la loi n'est pas à la portée de tout le monde. Nous constatons bien entendu que avec l'explosion démographique, n'est-ce pas, qu'il y a en RDC, il fallait aussi qu'on mette des moyens en place qui s'adaptent à cette explosion démographique. Parce que du moment où on ne met pas des moyens en place qui s'adaptent à cette explosion démographique, et donc il y aura toujours une grande partie des enfants, bien entendu les adolescents qui vont se lancer dans ces affaires-là, comme tu dirais, des antivalides.
Voilà, on a compris. On a compris, Jackson. Pour vous, les responsabilités sont partagées entre les parents, également l'État. Les professeurs vont réagir par rapport à cela. Merci, oui, Jackson, oui. D'avoir appelé de Goma dans le Nord Kivu. On vous retrouve, professeur Norbert Lopichi. Mais avant de répondre à Saoul et à Jackson, qui les deux, à part du problème de l'éducation et des responsabilités des parents, Jackson qui a également parlé de la responsabilité de l'État, j'aimerais d'abord que vous répondiez à ces questions des patients, Paul. Est-ce qu'il y a un lien entre la délinquance juvénile et la puberté, ou vous voulez bien savoir, et c'est quoi la différence?
Bon, moi je considère que la différence est très nette entre la délinquance juvénile et la liberté. La liberté, d'abord, c'est un droit reconnu, hein. Pour la liberté d'association, la liberté d'expression. Parler de la liberté tout court, je ne pense pas qu'il y a un rapprochement. Peut-être il voulait parler de libertinage.
Non, de la puberté.
Je l'ai dit, la délinquance juvénile, ce sont les textes juridiques qui les définissent et qui définissent les actes qu'on peut considérer comme relevants de la délinquance juvénile. Donc, il n'y a pas une délinquance juvénile au monde, non. Il y a autant de délinquances juvéniles qu'il y a des définitions des situations et des actes à travers le monde. Hein, donc ça, c'est ce que je peux dire. Donc, je me résume en disant, c'est totalement différent. Hein, mais la liberté, non, mais liberté tout court, mais ce n'est pas la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, c'est par rapport à un système juridique. Donc, si un acte offense une loi, hein, un acte qu'on qualifie de délit, un acte délictueux, c'est ça ce qui peut relever de la délinquance. Mais c'est toujours par rapport à un système juridique qui définit cet acte-là. Mais la liberté en soi, non. C'est d'ailleurs un droit. Mais la libertinage, ça peut poser problème. Parce que c'est une liberté sans limite. Hein. Par exemple, la situation des enfants qui vivent dans la rue. Ils circulent quand ils veulent, ils dorment quand ils veulent, mais ça c'est le libertinage. Et ça, c'est très proche de la délinquance juvénile. C'est pourquoi j'ai dit, faisant allusion au pouvoir colonial, ne fût-ce que le vagabondage. On te ramasse, toi, un jeune, en train de vagabonder à des heures précises, on te ramasse. Tu es considéré comme un délinquant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà comment je tente de répondre à cette question.
Mais professeur, c'est un lien entre la délinquance juvénile et cette fois-ci la puberté.
Bon, la puberté, je ne suis pas psychologue. Hein. Je crois que prochainement, vous inviterez un psychologue pour développer correctement toutes ces notions, puberté, adolescence. Mais avec ma petite connaissance, la puberté, c'est en fait la période de transitoire, hein, entre l'enfance et l'âge adulte. Donc, la personne voit sur son corps, hein, certaines manifestations inhabituelles, notamment les poils qui poussent, la voix qui devient rauque pour un garçon, patati patata. Donc c'est ça la puberté, hein. Donc la période transitoire entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. Mais il y a une crise qui guette cet enfant-là, pubère. Hein. C'est ce que l'auteur que j'ai évoqué considère comme délinquance passagère. Donc, il faut bien surveiller les enfants à cet âge, sinon ils vont poser des actes. Ils auront tendance à braver l'interdit, hein, à affirmer leur autonomie, à affirmer qu'ils ont aussi des grandes personnes qui commencent à voir certaines choses de leur manière. Donc, c'est une période qui expose les jeunes gens à la délinquance.
On va finir avec ces préoccupations du Saoul qui a appelé de Kinshasa, Jackson qui a appelé de Goma dans le Nord Kivu. Eux, ils estiment que les responsabilités sont partagées. Il y a les parents qui ne jouent pas pleinement leur rôle, mais il y a également l'État congolais qui n'assure rien absolument pour ce qui est de l'encadrement des jeunes.
Mais là, je suis tout à fait d'accord avec nos amis. Vous savez, de toutes les trois formes de délinquance là, la délinquance symptôme, la délinquance passagère, quelle est la forme de délinquance qui peut être considérée comme plus grave? C'est la délinquance systématisée. C'est la délinquance relative au fonctionnement de la société. C'est ainsi que lorsqu'on évoque les facteurs causaux proprement dit, le premier paquet de facteurs causaux, c'est le chômage, c'est la misère, c'est la précarité des conditions socio-économiques, c'est la pauvreté. Mais quand ces facteurs-là sont présents, ça constitue ce qu'un criminologue appelle le bouillon des cultures criminogènes. Donc, le chômage, la misère, les conditions précaires, c'est déjà un terrain favorable à la criminalité. Ça, c'est le facteur économique. Un autre facteur, c'est le facteur politique. Le facteur politique, vous allez voir que si tout bouge, il y a instabilité des institutions politiques, il n'y a pas d'inquiétude, il y a des guerres, mais c'est un foyer favorable à la délinquance. D'ailleurs, quand il y a guerre, il y a circulation incontrôlée des armes, il y a circulation incontrôlée des anciens militaires qui deviennent des civils, patati patata. Donc, il y a beaucoup de facteurs sur le plan macro-sociologique qui peuvent être évoqués. Et à cela aussi, on n'oublie pas les facteurs culturels, les facteurs liés à la mentalité, vous voyez, la mentalité africaine qui a tendance à obliger les enfants. Il y a même un auteur dont j'oublie les noms qui dit que beaucoup de parents africains, ils confondent l'adage selon lequel l'enfant constitue une ressource matérielle. On pense que l'enfant, quel que soit son âge, il peut déjà être invité à nourrir les parents. Et on force les enfants à certains actes qui n'est pas vraiment de leur âge. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais à cela aussi, on peut ajouter les facteurs psychologiques relatifs à l'enfant lui-même. Il y a des enfants qui cherchent aussi à s'affirmer de manière tout à fait délibérée. Donc, il y a beaucoup de facteurs à la base de la délinquance.
Voilà, beaucoup de facteurs à la base de la délinquance. Professeur Norbert Lupici, vous êtes criminologue et spécialiste de l'enfance marginalisée. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la délinquance juvénile, cause et solution. Merci, on vous retrouve très prochainement.
Merci beaucoup, merci.